Bible et théologie, voici notre dernier entretien du mois de janvier, où, que nous avons consacré à la prière du Notre Père. Je vous rappelle que le pasteur Louis Pernaud, qui est avec nous, bonjour.
Bonjour.
A publié aux éditions de Paris le Notre Père abrégé de tout l'Évangile. Et nous terminons donc notre parcours. Il faut rappeler que sur le site de Fréquence Protestante, vous pouvez retrouver ces émissions qui sont présentes là pendant de longues semaines, pour si vous en avez raté. Et puis vous pouvez acheter le livre de Louis Pernaud aux éditions de Paris, le Notre Père.
Oui, c'est un livre qui est très facile à lire.
Oui, et mais on le sent, ce n'est pas basse flatterie, Louis Pernaud, dans les explications que vous donnez là au micro. Et je dois dire que l'écriture de votre livre est de ce style. Donc on est dans un langage accessible, bien que nous ayons prévenu qu'il ne s'agissait pas d'un livre de piété. J'allais presque dire, il ne s'agit pas d'un livre de prière, mais d'un livre de théologie, comment comprendre. Mais ce n'est pas la théologie de coupeur de cheveux en quatre. Alors nous arrivons, c'est de la théologie parce que, en effet, il y a des problèmes. Et nous arrivons à la demande finale, ou deux demandes finales, parce qu'il y a deux choses dans cette phrase. Alors, je ne sais plus quoi dire, parce que précisément, le problème se pose tout de suite. Qu'est-ce que veut dire ? Autrefois, on disait « ne nous induis pas en tentation ». Ça avait un avantage, et personne ne comprenait ce que voulait dire induire. Et donc, on avançait tranquillement. Alors, actuellement, on a opté de manière écuménique pour ne soumet pas à la tentation. Vous n'en êtes pas entièrement satisfait.
Personne n'en est satisfait aujourd'hui.
C'est un problème complexe. Bon, alors on va essayer de comprendre, mais peut-être avant de traduire ce soumet ou ce soumet pas, il y a la question fondamentale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Dieu est tentateur ? Et dans l'Écriture, on trouve qu'il parfois il met à l'épreuve. Et en même temps, l'affirmation « Dieu ne tente personne ». Comment en sortir ?
Oula, ça c'est compliqué, oui. C'est vrai que, pour moi-même, en tout cas, l'idée que Dieu s'amuse à nous tenter m'est à peu près insupportable. C'est-à-dire, je crois que Dieu n'est source que de bien, et je ne crois pas que Dieu s'amuse à nous tenter. Ni d'une manière, ni de l'autre. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir deux façons avec laquelle Dieu nous tenterait. D'abord, par le fait que le mot « tentation », en hébreu comme en grec, est le même mot que le mot « épreuve ». Et donc, tenter, c'est éprouver. Or, je ne pense pas que Dieu nous éprouve dans le sens où, personnellement, je crois que Dieu n'est que source de bien et jamais de mal. Et je crois qu'aucune de nos épreuves n'a pour origine Dieu. Il m'arrive d'ailleurs de dire ça dans des services funèbres, quand on a affaire à des situations dramatiques où je n'ai pas le temps de trop détailler le problème du mal. Ça m'arrivait de dire aux gens, écoutez, je ne sais pas pourquoi votre petite fille de 3 ans est morte d'une façon si brutale, mais trouvez la solution que vous voulez, mais libérez Dieu de cette responsabilité. Que vous puissiez continuer de croire dans un Dieu d'amour, de bonté et de vie.
Oui, ce qui interdit, entre parenthèses, ces formulations qui nous étaient si familières autrefois dans nos liturgies. Dieu a rappelé à lui, alors voilà, on était plongé dans cette affaire. Là, c'est Dieu qui a décidé qu'un tel devait mourir aujourd'hui.
Et c'est vrai que là, nous avons tout le problème du mal qui surgit. Et tout à l'heure, vous disiez que c'est un livre de théologie, mon petit livre sur le Notre Père. Et je crois que c'est vrai, c'est pas simplement un livre pour aider à comprendre le Notre Père. C'est un livre qui permet d'aborder toutes les grandes questions de la théologie, dont la question du problème du mal. C'est-à-dire, est-ce que Dieu peut être source du mal pour nous éprouver, pour nous tenter, pour vérifier la fidélité de notre foi, parce qu'il nous laisse la liberté ou je ne sais quoi. Il y a là énormément de questions. Et moi, je dirais, écoutez, donnez la réponse que vous voulez, mais par pitié, libérez Dieu de l'origine du mal. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas vous faire souffrir, Dieu ne peut pas être à l'origine de votre souffrance ou de vos épreuves. Alors, pourquoi vous avez des épreuves ? C'est à vous d'y répondre. Mais en tout cas, s'il vous plaît, gardez à Dieu la possibilité d'être seulement source de vie, de bonheur, de joie et de paix. Alors, donc, je continue en disant, d'abord Dieu, pour moi en tout cas, et j'ai de solides références évangéliques quand même, c'est pas une lubie de ma personne, je crois que Dieu n'envoie pas le mal. Après, l'autre possibilité serait que Dieu éprouve, tente, c'est-à-dire essaye de mettre à l'épreuve en quelque sorte. Et ça, malheureusement, c'est aussi quelque chose qui a été trop souvent dit dans certaines théologies, de dire « quand il nous arrive du mal, c'est Dieu qui nous éprouve pour voir jusqu'où est-ce que notre foi tient bon ». La source de cela pourrait se trouver dans le livre de Job, où en effet, il arrive plein de malheurs à Job pour voir s'il tient le coup dans sa foi jusqu'au bout. Je crois que le livre de Job est un beau livre sur le problème du mal, que la mise en scène qui en est faite dans l'Ancien Testament est un peu mythologique et qu'il ne faut pas en tirer des conclusions théologiques trop fortes.
Oui, mais enfin, dans le livre de Job, c'est pas Dieu qui tape sur la tête de Job. Il laisse
Satan le
Satan,
faire.
Satan, d'ailleurs, il y a un article.
C'est le tentateur, c'est le mal qui le fait. En tout cas, cette idée que Dieu s'amuse à nous faire passer des épreuves, comme ma grand-mère qui laissait traîner des billets de 5 euros sur sa commode pour voir si sa bonne était honnête. Je dirais, c'est indigne de Dieu, ce genre de choses. Je ne peux pas penser que Dieu s'amuse à faire des sortes d'épreuves pour voir si notre foi est juste. Dieu scrute les cœurs, il sait exactement qui nous sommes, il n'a pas besoin de jouer avec nous pour voir où nous en sommes. Donc ce Dieu qui tente, je ne l'aime pas, et je suis là tout à fait dans la lignée de l'épître de Jacques, qui dit effectivement que personne, lorsqu'il est tenté ou éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui me tente ou m'éprouve », donc, parce que Dieu ne tente personne ou Dieu n'éprouve personne. Et là, c'est quelque chose auquel je me tiens tout à fait. Donc, ce « ne nous soumet pas à la tentation » n'est pas tenable tel quel. Je ne crois pas que Dieu s'amuse à nous tenter, et nous n'avons pas à demander à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation. La traduction est donc, une fois de plus, très certainement totalement fautive, et il est vrai que quand on retourne au texte original, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce dont il est question.
Alors, s'il n'est pas à l'origine du mal, alors qu'on sait d'expérience que lorsqu'on traverse une épreuve et qu'on obtient la victoire, c'est un résultat positif, c'est un enrichissement. L'épreuve en elle-même peut conduire à du positif.
C'est-à-dire que Dieu peut faire en sorte qu'une épreuve dont il n'est pas à l'origine puisse être pour notre bien. C'est-à-dire que Dieu peut changer le mal en bien. Et je crois que si j'ai confiance dans la puissance de Dieu, la puissance créatrice, c'est que Dieu peut faire en sorte que toute épreuve qui nous est donnée puisse finalement être pour notre croissance, notre progrès et pour notre bien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu soit à l'origine du mal. Quant à ce qui est demandé dans notre Père, donc il faut reprendre au plus près la demande. Et là encore, il faut faire un petit peu de grec. Et la demande en grec, c'est « mi isenekin eis peirasmon », c'est-à-dire « ne nous fais pas entrer dans la tentation ». D'où le latin inductus, qui veut dire induire, et qui a été traduit ainsi en français, et ce à quoi plus personne ne comprend rien, ne nous induit pas à la tentation. Ce mot isenekein est intéressant parce qu'il n'apparaît, je crois, que deux fois dans tout le Nouveau Testament. Une fois là, et une fois dans le récit où Jésus guérit paralytique. Ce paralytique que l'on introduit dans la maison, c'est-à-dire qu'on le fait descendre dans la pièce où se trouve Jésus. Et donc, induire, inductein, ça veut dire faire rentrer dans une pièce, faire rentrer dans un endroit fermé. Et on pourrait le traduire comme ça, en disant que ce que nous demandons à Dieu, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas enfermés dans la tentation ou dans l'épreuve, comme on serait enfermé dans une cellule. C'est-à-dire que nous ne soyons pas resserrés, je dirais, dans un lieu clos, sans issue. Mais, alors effectivement, la demande suivante est bien la réponse, délivre-nous du mal. C'est-à-dire que Dieu puisse ouvrir des passages. Et je crois que c'est ça l'important, effectivement, que nous ne soyons pas enfermés dans l'épreuve.
Alors, dans vos explications, dans votre étude, dans votre livre, Louis Pernaud, vous faites allusion, vous dites, mais il y a dans l'Évangile un grand texte, ce sont les trois tentations du Christ. Hein. Bon, encore une fois, D'abord, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on sait ça, puisqu'il était tout seul, enfin, tout seul avec le diable. Bon, peu importe. Moi, ce que je crois profondément, c'est que c'est une espèce de compendium.
Bien sûr, oui.
Hein, on a rassemblé là les tentations essentielles, voilà, du pouvoir, du petit miracle qu'on fait, égoïste, etc., etc., qui ont été des tentations permanentes pour Jésus tout au long de sa vie. D'ailleurs, à la fin de ce texte, il y a le diable le laissa jusqu'à une autre occasion, et l'autre occasion, à l'évidence, c'est sur la croix, descendre ta croix si tu es le fils de Dieu. Bon, c'est-à-dire, laisse tomber ta mission et pense à toi, fais à ton profit, ce qui est déjà dans les trois tentations du désert, auxquelles il répond armé de la parole de Dieu. Il était, parce que le diable n'est pas fou. Il attaque. Le diable, il connaît aussi la parole de Dieu.
Bien sûr. Il l'utilise.
Il l'utilise et Jésus répond avec la parole de Dieu et avec les mêmes armes. Hein. Bon. Alors, il y a une question là. C'est. On pourrait comprendre que cette tentation, en fait, qui est. Donc, par exemple, je disais, pour Jésus, aller quitter sa mission, finalement, on lui mettrait une majuscule, la grande tentation qui est de nous détourner de notre vocation de serviteur de Dieu.
Oui, bien sûr, la tentation, je crois que c'est la tentation peut-être aussi de... Enfin, plutôt chacun... C'est à chacun de savoir quelle est sa tentation première pour le Christ. C'était tout ce qui pouvait le détourner de sa mission. Et puis ça peut être aussi, par rapport à l'épreuve, la tentation de justement de succomber dans l'épreuve. Parce que c'est toujours ça le danger de l'épreuve, quand on subit du mal, c'est de se laisser enfermer par elle et d'être l'objet de cette épreuve qui devient le sujet de notre propre existence. Et là, c'est très important de pouvoir être libéré de cela. D'ailleurs, je reprends la guérison de ce paralytique, où on retrouve ce même mot d'enfermement, où Jésus dit au paralytique « Lève-toi, prends ton lit et marche », c'est-à-dire « redeviens le sujet de ta vie ». Parce que le miracle, c'est bien ça, enfin, un des miracles en tout cas, ou une forme du miracle, c'est qu'avant, c'est le lit qui porte le malade, et après, c'est le malade qui porte le lit. C'est-à-dire que l'épreuve devient l'objet que je supporte et ne devient plus l'objet qui m'enferme. Et pour cela, encore, c'est un travail extraordinairement difficile de réappropriation de son propre sujet, et c'est quelque chose pour lequel nous avons besoin de Dieu. C'est pourquoi c'est demandé dans le Notre Père, parce que ce n'est pas évident du tout. Voilà. On aurait pu éventuellement d'ailleurs garder le mot « soumettre ». Je ne sais pas d'où les théologiens l'ont sorti, ce mot « soumettre » qui ne se trouve absolument pas dans le texte, mais en disant « fait que nous ne soyons pas soumis dans l'épreuve », c'est-à-dire comme un ennemi vaincu est soumis, écrasé. Donc « fait que nous ne soyons pas soumis dans l'épreuve, mais que nous puissions redevenir debout, maître de notre propre existence ».
Pas trop mal autrefois quand on disait « ne nous laisse pas succomber à la tentation ».
Ah, évidemment, le « ne nous laisse pas succomber » était certainement moins littéral, mais était beaucoup plus juste théologiquement.
Je suis tenté, c'est pas Dieu qui me tente, mais je lui demande de ne pas me laisser...
Alors là, effectivement, il y a d'ailleurs une autre difficulté qui tient à la grammaire hébraïque, puisque Jésus n'a certainement pas dit le Notre Père en grec, mais en hébreu. Et en hébreu, il y a une grosse difficulté sur ce sur quoi porte une négation dans une phrase. Et le « ne nous soumet pas à la tentation » peut être traduit, si on le dit en hébreu, par « fait que nous ne soyons pas soumis ». Vous voyez, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que la négation ne porte pas forcément sur le sujet de l'action, mais sur Dieu qui au contraire, plutôt sur l'ensemble de la phrase. La phrase, c'est « je suis soumis » et « que je ne sois pas soumis ». Et c'est Dieu, à ce moment-là, qui peut faire que. Ce qui fait qu'un certain nombre de gens, aujourd'hui, militent pour la modification de la traduction du Notre Père, surtout sur ce verset, là, qui est le plus controversé. Et maintenant, beaucoup de gens disent que ce qu'ils voudraient, c'est dire « ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». C'est d'ailleurs ce que j'utilise maintenant au cours du culte. Moi, se soumettre à la tentation est tellement épouvantable que je mets, tant pis pour ceux que ça choque, « ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». Et ça, c'est déjà mieux, parce que « ne nous laisse pas entrer dans la tentation » montre que ce n'est pas Dieu qui est le sujet de l'épreuve. Mais je crois que le texte va encore plus loin. ce n'est pas « ne nous laisse pas entrer dans la tentation », mais « fais que nous n'entrions pas dans la tentation ». C'est-à-dire que Dieu peut être le sujet justement même de notre libération et du fait que nous ne soyons pas enfermés dans la tentation comme dans une cellule de prison.
Nous allons respirer un peu en écoutant ce Notre Père chanter et nous allons nous précipiter dans le deuxième volet qui lui est semblable. Là, je parle comme dans le texte biblique. Dans un instant, nous serons avec « Délivre-nous du mal ». Vous êtes toujours dans Bible et théologie, c'est notre dernier entretien avec le pasteur Louis Pernaud sur la fin du Notre Père, puisque nous avons parcouru pendant tout ce mois de janvier le texte du Notre Père, et nous arrivons « Délivre-nous du mal ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce « Délivre-nous du mal » alors que nous voulons parler de la tentation? Est-ce que c'est une tautologie? Est-ce que c'est une répétition? Cette libération du mal, ça ressemble bien à ce qu'on vient de dire, d'être...
Oui, ce qui fait que beaucoup de théologiens, d'ailleurs, considèrent qu'il s'agit d'une seule et même demande. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc oui, c'est bien la suite, je dirais, de la demande précédente. Néanmoins, on pourrait lui donner une existence plus individuelle en disant que, en fait, il n'y a pas écrit « Délivre-nous du mal », il y aurait plutôt écrit « Délivre-nous du malin ». Alors ça rappelle peut-être des souvenirs aux plus anciens, puisque autrefois on mettait ça dans les vieilles traductions. Et le malin, ce n'est pas le petit malin. Le malin, c'est le diable, c'est-à-dire c'est la source même du mal. Et là, on est dans la théologie du Nouveau Testament, le plus souvent dans l'idée que Dieu, une fois de plus, n'est pas à l'origine du mal, mais que le mal a une origine autonome, en quelque sorte, qui est indépendante de Dieu et qu'on désigne en général par le mot « malin ». Ça ne veut pas dire que l'on croit au diable comme une personne qui organiserait le mal, parce que je crois que le mal, par définition, est brouillon, que le mal est hasardeux, que le mal est sans ordre et sans plan. Heureusement pour nous, d'ailleurs, sinon ce serait terrible. Mais le malin, c'est tout ce qui est la source même du mal. Et il y a, je crois, beaucoup de sources possibles du mal, et c'est peut-être là aussi à chacun de dire quelle est pour lui la source même de son mal, et que ce que nous demandons à Dieu, c'est de ne pas nous délivrer simplement des effets du mal, mais de nous délivrer de la source même de ce qui nous tente, de ce qui veut nous mettre par terre, et de ce qui veut nous abattre. Et nous éprouver. Et pour cela, nous avons besoin de Dieu à la fois pour discerner la source même du mal et aussi de couper à la racine, en quelque sorte, la malfaisance de ce malin qui n'est pas en Dieu, mais qui est la racine de ce qui nous éprouve.
De telle sorte, dites-vous, dans votre livre, Louis Pernaud, qu'il y a alors une cohérence tout à fait logique de cette fin du Notre Père. Pardonne le mal que nous avons fait, libère-nous de la tentation de faire le mal, et libère-nous de l'idée même du mal.
Ah oui, c'est ça.
Qu'elle ne vienne pas en nous.
Et oui, bien sûr, parce que le Christ, sans arrêt dans l'Évangile, dit que l'important, ce n'est pas les actes, mais c'est la foi, c'est-à-dire c'est la source même de tout. Comme il dira, on reconnaît un arbre à ses fruits et on ne cueille pas des bons fruits sur un mauvais arbre. Donc le but, ce n'est pas de dire « fais que je ne fasse pas le mal », mais « fais que je n'ai même pas l'idée de faire le mal à l'origine ». Et pour ça, il y a un travail de conversion intérieure qui n'est pas un travail de contrainte morale. Parce que la contrainte morale, je dirais, la loi peut me l'imposer. Mais d'arriver à un travail de conversion intérieure, que mon cœur puisse se tourner vers le bien et non vers le mal.
Du coup, dites-vous aussi, dans votre livre, on voit bien que le Notre Père est très équilibré, puisque Dieu est au début, évidemment, hein, Notre Père, mais il est aussi à la fin, il s'agit de rester en Dieu, de ne pas se mettre du côté du diable, et c'est ainsi que la conclusion de l'ensemble du Notre Père fait que nous appartenions tout entier à Dieu,
et voilà.
Du début jusqu'à la fin.
Ah oui, mais avec un petit problème. C'est que si le Notre Père se termine par « délivre-nous du mal », le dernier mot de la prière serait le malin, c'est-à-dire le diable. Et ça, c'est quand même très embêtant que la prière se termine sur la mention du diable, c'est-à-dire qu'on ne revienne pas à Dieu quand même. Et certainement que c'est là le sens de ce qu'on appelle la doxologie, c'est-à-dire...
C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
Voilà. Donc, voilà. Et cette doxologie est très controversée, parce que vous savez qu'elle est absente des plus anciens manuscrits de la Bible. C'est-à-dire qu'apparemment, elle a été rajoutée tardivement, en quelque sorte. Donc à l'origine, la prière se termine bien par « délivre-nous du mal », point. C'est d'ailleurs ce que font nos frères catholiques, hein, qui terminent le Notre Père par là. Il y a un petit paradoxe d'ailleurs là, puisque les protestants qui prétendent s'en tenir à la Bible rajoutent la doxologie qui n'est pas biblique, et les catholiques qui prétendent donner de l'importance à la tradition s'en tiennent au texte biblique. Bon, ce qui prouve que les choses sont complexes. Alors, est-ce que l'on devrait ne pas mettre du tout de doxologie ? La recherche théologique la plus récente montre que, en fait, une prière juive à l'époque ne pouvait pas se passer de doxologie. C'est-à-dire qu'on mettait toujours une doxologie à la fin d'une prière.
Ce qui veut dire que Jésus et ses disciples, en priant, ont terminé avec une louange, une doxologie.
Alors on ne sait pas laquelle. C'était peut-être pas celle que nous utilisons aujourd'hui, c'était peut-être une autre. Toutes les doxologies se ressemblaient un peu. « Car à toi est le règne pour tous les temps, amen » ou je ne sais quoi. Ces doxologies pouvaient varier, elles étaient toujours à peu près comme ça. Elles étaient... ad libitum, comme on dit, c'est-à-dire un petit peu au choix du priant. Et donc, elles n'étaient pas écrites, mais elles étaient toujours dites. De même que...
comme dans la musique du Moyen-Âge ou de la Renaissance, où tout n'était pas écrit, et on laissait à l'instrumentiste le soin de donner la conclusion.
Oui, ou comme le « Amen » à la fin d'une prière. Avez une prière écrite, même s'il n'y a pas écrit « Amen » à la fin, quand vous priez, vous rajoutez le « Amen ». Et donc, certainement que les disciples, en tout cas, quand ils disaient le Notre Père, disaient nécessairement une doxologie. C'était peut-être pas celle-là, mais ils la disaient. Et du coup, ça expliquerait pourquoi cette doxologie ne se trouve pas dans les textes les plus anciens, puisque naturellement, les disciples ou les chrétiens la rajoutaient, et que quelques siècles plus tard, on a ressenti le besoin de l'écrire, parce que cette habitude s'était un petit peu perdue. Mais on dit même, d'ailleurs, dans la tradition juive, qu'il est impossible qu'une prière se termine par une mauvaise parole. c'est-à-dire par l'évocation du mal. Ça, c'est pas possible. Il faut revenir au bien. Alors, quelle doxologie utiliser ? Puisqu'il y en avait une, Jésus forcément utilisait une doxologie, les disciples aussi. J'avoue que là, mon premier sentiment, c'est de penser que cette doxologie que nous avons est effroyable. Parce qu'elle nous fait retomber dans une vision, entre guillemets, très Ancien Testament de Dieu, avec le règne, la puissance et la gloire, et après avoir parlé d'amour, de pardon, de tendresse, de paternité, revenir vers ce Dieu monarchique oriental, et je trouve une sorte de retour en arrière. Et je me suis dit, mais finalement, puisque la doxologie n'est pas écrite, en quelque sorte, pourquoi est-ce que je n'aurais pas la liberté, moi, d'en mettre une autre ? Ben oui, je peux. Et j'aimerais, je l'ai déjà fait d'ailleurs au cours de culte, terminer en disant « Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, le pardon et la paix au siècle des siècles. Amen. » Voilà. Alors ça me plairait beaucoup plus, parce que l'Évangile nous présente un Dieu d'amour, de pardon, de tendresse, et pas de règne, de puissance et de gloire.
Intéressant de signaler, comme vous le faites dans votre livre, que par rapport à tout le reste de la prière, c'est la seule louange de la prière. Le reste sont des demandes, etc. Là, c'est la seule louange. Et puis alors, ce qui va nous permettre de conclure, parce qu'il va falloir conclure, c'est l'importance de ce quart.
Alors,
qui détermine un petit peu les choses.
Il y a le quart, mais sur la louange, ça, il faut le dire, oui. La prière, c'est pas que de la demande, la prière, c'est aussi de la louange. Et ce qui est intéressant, peut-être, c'est justement que la louange ne soit pas écrite. C'est-à-dire que les demandes, faut faire bien attention à ce qu'on demande. Faut pas demander n'importe quoi à Dieu. Donc, ce qu'il faut demander, ça, c'est dit par le Christ. Quant à la louange, je dirais, elle ne doit pas être écrite. Donc, la louange, eh bien, vous louez avec votre cœur. Ça, c'est l'improvisation. Donc, il faut qu'il y ait une doxologie. Mettez la louange que vous voulez, peu importe. Mais il faut louer Dieu, ça c'est la dimension personnelle. Quant au quart qui est entre les deux, c'est vrai qu'il y a là un lien intéressant et qui remet toute la prière à l'envers. Je demande tout cela car je loue Dieu et parce que je reconnais qu'à Dieu appartient la puissance, le règne et la gloire.
C'est lui qui est au premier plan.
C'est lui qui redevient au premier plan. On a dit tout à l'heure qu'on commençait par des demandes célestes pour venir au plus terrestre, voire au plus profond, même du plus obscur de notre existence, avec l'évocation du malin qu'est le diable. Et il faut qu'à la fin, on remonte à Dieu. Et cette doxologie nous fait revenir au plus haut de Dieu qu'a le règne, la puissance et la gloire. Et après tout, pourquoi pas, puisqu'on est habitué au règne, à la puissance et à la gloire, de dire à Dieu sont les choses les plus grandes, les plus hautes. Et peut-être qu'il est même bon de ne pas trop préciser, parce que faut jamais trop préciser, il faut que ça reste ouvert. Le règne, la puissance et la gloire. Dieu est règne, Dieu est puissance et Dieu est gloire. Et je rends gloire à Dieu, je rends grâce. Et c'est grâce à cela que je peux remonter toute la prière à l'envers et finalement reconnaître Dieu comme Père.
Et donc, en effet, il y a une conclusion à laquelle nous ajoutons « Amen », ce qui n'est pas négligeable, parce que « Amen », en des mots modernes, cette racine-là veut dire, parle des fondations d'une maison.
Ah,
donc, ce qui est sûr,
c'est vrai.
Ce qui est solide, ce sur quoi tout s'appuie. Donc voilà, quand nous disons « Amen », tout ce que nous venons de dire, c'est sûr, c'est bien cela que nous croyons, c'est bien cela que nous demandons au Dieu qui est bien notre Dieu, Père, que nous sommes là pour servir dans notre prochain et en lui-même. Amen, c'est sûr. Merci Louis Pernaud d'abord d'avoir écrit le livre « Le Notre Père » abrégé de tout l'Évangile aux éditions de Paris et d'avoir accepté de passer un peu de temps à nous donner soif que maintenant chacun se précipite vers sa librairie la plus proche. Merci et jusqu'à une autre période d'entretien sur d'autres sujets, je l'espère.
Au revoir.